Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux, même en été. Moi, c'est Hugo, je suis avec Exerve.
Salut.
Et je suis aussi avec Maxime.
Salut.
Comment ça va, messieurs?
Ça va au poil.
Ça va au poil, voilà.
Eh oui, non mais là vraiment, voilà, je reviens de vacances, ça fait à peu près un an que je m'étais pas senti aussi reposé, détendu, j'ai le cerveau qui est oxygéné, j'ai désinstallé les réseaux sociaux de mes téléphones.
Et ça va mieux, ça y est.
Voilà.
Le cerveau est libre.
Ouais, tout à
l'esprit
fait.
L'esprit est libre, l'esprit est sain, dans un corps sain.
Eh oui. Non mais ça va super, vraiment. Je suis très content d'être là.
Et toi, Maxime, t'es pas encore parti en vacances?
Mais non, mais ça va.
Mais ça va quand même.
Pas au poil, mais pas loin. Je vois le visage d'Exer qui rayonne,
mais oui. ça fait plaisir, il nous illumine tout simplement.
Qui a fait son propre voyage et qui est revenu, tu vois, de son
Ah, corps. Ça et commence ouais. à. Ah, d'accord,
on fait du teasing de l'épisode dans l'épisode.
Du foreshadowing.
Je pense que les gens ont lu le titre.
Probablement.
C'est possible. Mais avant d'en parler, on va d'abord remercier nos patriotes qui nous soutiennent aussi en été. Merci de nous aider à produire cette émission, à garantir sa régularité et puis de nous permettre d'investir le temps pour la préparer. Et puis sachez qu'on a plein de choses qui sont, enfin plein de choses, bon, on a un bon programme, on va dire, pour commencer la rentrée.
Voilà, on sait de quel jeu on va parler, hein,
on sait de quel jeu on va parler et ça va être du lourd. Donc si vous voulez nous soutenir, ça peut être le bon moment pour le faire. Comme ça on peut reprendre vraiment en septembre
sur les chapeaux de roue.
Exactement,
vous voyez, moi j'ai des expressions comme ça, au poil, chapeau de rouge, pour vous sortir. Incroyable, hein. Sapristi.
Donc merci à vous. Et puis on remercie également Third Edition, la maison d'édition qui n'est plus tout à fait spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo, puisque là récemment ils ont annoncé quand même pas mal de bouquins qui surfaient plutôt sur la pop culture en général, puisqu'il y a un bouquin sur Batman, sur Spider-Man, il y a aussi un bouquin sur Akira qui va sortir. Donc ils ont développé un peu tout leur programme pendant que j'entends les oiseaux caqueter derrière moi.
Et oui, en Alsace, nous avons encore un petit peu de vie, on a de la nature.
La faune.
Pour combien de temps?
Alors, la faune strasbourgeoise.
On ne sait pas.
Donc voilà, gros programme pour Terre d'édition jusqu'à la fin de l'année. Et on les remercie encore une fois pour nous donner ce petit coup de pouce pour produire l'émission. Aujourd'hui, comme le disait Max, les gens ont probablement lu le titre, on va parler de Journey. On va essayer de comprendre comment ce jeu a atteint le statut qu'il a aujourd'hui. Je pense que tout le monde a entendu parler de Journey, même si vous ne l'avez pas forcément fait. Mais c'est vraiment un jeu qui a une place très particulière. C'est un petit peu, on le disait dans la préparation, c'est un peu la carte Exodia le maudit du jeu vidéo, c'est de l'art. C'est un peu le truc ultime à sortir, et c'est bon, t'as gagné le débat normalement.
Oui, c'est ça, ouais. Dès que tu te poses la question, tu arrives, hop, tu montres une image de Journey et ça y est, t'as gagné. Le jeu vidéo, ça y est, d'un coup, c'est de l'art.
C'est
avant,
là.
Ça l'était, mais on n'en était pas sûr. Et maintenant, c'est sûr,
depuis,
c'est de l'art.
Depuis 2012, c'est bon, c'est acté. C'est passé au journal télévisé. l'ont annoncé, les institutions l'ont validé.
Non, mais même encore aujourd'hui, 7 ans plus tard, le jeu a toujours un statut vraiment à part. Ouais. Et puis, le but de l'émission, c'est de revenir un petit peu sur la genèse du truc et de comprendre pourquoi ce jeu a-t-il un statut pareil.
Exactement. Et c'est parti. Du coup, je l'ai dit dans l'intro, Journey s'est sorti en 2012, en mars 2012. C'était sorti à l'époque que sur PlayStation 3, c'était une exclue. Et puis, il est ressorti sur PlayStation 4, puisque bon, hein, Sony, ils aiment bien rapatrier une partie de leur catalogue sur leur nouvelle console. Et puis, c'est sorti très récemment, en juin, sur l'Epic Store. C'était un petit peu une surprise, mais ça s'explique tout simplement par le fait que c'est Jay Novacek, qui est le créateur donc, de Journey, et aussi du studio Dead Game Company qui est derrière, qui est aussi impliqué dans Annapurna Interactive. Et Annapurna Interactive, ils ont une espèce de deal en fait avec l'Epic Store où ils leur sortent quand même. Là, ils ont même, je crois que Outer Wilds, qui est un jeu Annapurna, il est en exclu aussi sur.
Ouais, pour l'instant, c'est des exclus d'un an à chaque fois qui deal. Il y a What Remains of Edith Finch qui a sorti dessus. Enfin bref, du coup, tous les jeux Annapurna, on sait qu'à l'avenir, ils vont arriver sur l'Epic Store. Et du coup, vous m'apprenez. Tu vois, ça m'en avait pas parlé en préparation. Moi, je savais pas que Genovacen, il avait bossé ou il bosse encore même dans Annapurna Interactive. Mais du coup, c'est pour ça qu'on a Journey.
Je crois qu'il a été vraiment consultant dès le début, un petit peu, même pour, je pense, constituer un peu la ligne éditoriale du truc, et il est toujours plus ou moins impliqué dedans. Du coup, facile d'avoir un deal d'édition sur PC pour un de ses jeux. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il a quand même pu récupérer Journey, qui était longtemps vraiment associé à Sony. Et c'est vrai que moi, c'est, tu sais, tu te dis, c'est vraiment le genre de jeu, je pensais pas qu'il allait pouvoir sortir sur PC.
En fait, ce genre de deal, souvent, c'est sur une certaine période. Donc, c'est souvent des deals qui sont sur 5, voire 7 ans, rarement beaucoup plus, hein, parce que c'est très rare, les exclus à vie. À part pour les studios vraiment first party.
Voilà,
donc au bout d'un moment, ils ont plus simplement, je pense, le récupérer. À mon avis, bon, Sony, je veux dire, ils ont réédité en physique sur PS3, ils ont réédité en physique sur Play 4.
Ils ont assez trait lavage.
Ouais, c'est ça, ils ont bien extrait le truc. Et du coup, ils ont pu le récupérer. Mais la vraie question, c'est mais qui est Jay Novacek?
Oui, parce qu'on en parle comme ça, mais du coup, voilà, Jay Novacek, qui est chinois, et il me semble que pas à la base, il est chinois tout simplement, et il a terminé ses études aux États-Unis, et c'est là qu'il a commencé à se mettre en fait dans le jeu vidéo.
Ouais, il étudiait, alors c'est une branche, une école de cinéma, c'était médias interactifs, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il a fait un master, en fait, une thèse de master sur le concept de flow dans le jeu vidéo. Alors pour la faire très rapidement, le flow, c'est une espèce d'état où on est vraiment absorbé en fait dans notre activité. C'est pas quelque chose qui est propre au jeu vidéo, ça peut être dans un film, ça peut être dans toute activité physique aussi.
Cette espèce de zone, hein, y a d'autres personnes qui parlent de zone, voilà, on est dans la
zone.
En
français, c'est le mot qu'on utilise.
Ouais. Et donc lui, il a fait une thèse dessus et sur comment en fait les jeux pouvaient provoquer ça. En tout cas, il a théorisé un petit peu ça. Et il a fait un jeu en fait pour illustrer ce concept qui s'appelle Flow.
Tout simplement.
Incroyablement.
Et très gros succès à l'époque, donc c'était un jeu en flash, donc c'est sorti en 2006.
C'était un jeu un peu étudiant, du coup, je crois, avec son équipe, donc avec. Comment elle s'appelle? C'était pas encore avec
pas
Flo,
en fait. Alors, si on veut faire un peu toute
la chronologie,
merci. En 2005, il avait fait un jeu qui s'appelait Cloud, et là, pour le coup, il était avec, on la rementionnera, Kelly Santiago, et ils étaient 7 à peu près.
D'accord.
Là, Flo, pour le coup, c'était vraiment lui, un autre gars, et Austin Wintory, un autre nom qu'on reviendra plus tard, qui a fait la musique de Flo, mais bref, Flo c'est principalement associé à Genova.
D'accord, ok, ok.
Et donc, gros succès, ça a été téléchargé des centaines de milliers de fois en quelques semaines pour un jeu flash, et beaucoup de gens disaient que c'était addictif, qu'ils avaient du mal à tête jouer, donc vraiment, voilà, l'illustration.
Il avait réussi son enquête voilà. Terrain.
Plutôt bien réussi son coup, et juste après ça, du coup, avec donc, Kelly Santiago, avec qui il avait fait le jeu Cloud. Ils ont eu un contrat avec Sony et ils ont fondé Dead Game Company.
Ouais.
Et ils avaient donc un contrat pour faire 3 jeux. Ils pouvaient refaire Cloud ou Flow, ils ont décidé de refaire Flow, qui est donc sorti sur le PSN.
Ouais.
Et pareil, très gros succès, je crois que c'est des millions de téléchargements hein, sur le PSN.
C'était les tout débuts hein, du PSN, ouais. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'on, tu vois, c'était il y a à peine 10 ans, mais on revient à une époque où c'était vraiment les pionniers, parmi les pionniers des jeux indépendants. Et parce que Flow, si les gens ne voyaient pas trop à quoi ça ressemble, tu vois, c'est quand tu vois aujourd'hui des jeux comme Agar.io, c'est un peu la même chose, quoi. Tu contrôlais une espèce de petit insecte qui devait descendre dans une sorte d'océan, une abysse, et manger de plus en plus de bestioles. Et ces formes géométriques évoluaient au fur et à mesure, et c'est vrai que c'est un jeu qui est extrêmement simple, mais qui pour le coup fonctionne très bien justement sur cette idée, bah voilà, de tu peux facilement oublier le temps qui passe quand tu es là-dedans.
Et donc ils l'ont, le remake entre guillemets est sorti en 2007, et après ils ont fait Flower, donc Flow avec ER à la fin.
Il y a plus de Flow.
Exactement.
Là qui était un jeu qui a eu une réception critique aussi assez, on en a parlé en intro avec le côté de Journée, c'est un peu la carte, le jeu vidéo c'est de l'art. Flower a aussi un petit peu commencé à apporter ça, puisque c'est un jeu assez onirique, contemplatif, où on va incarner un pétale et récupérer d'autres pétales un peu dans le sillage l'âge du vent sur un discours un petit peu la nature contre l'urbanisation.
Qui est pas mal. Bon discours, ça passe bien en ce moment.
Oui, mais ouais, ça n'a pas marché.
Apparemment,
ça n'a pas fonctionné, on n'a pas sauvé le monde et du coup, ils ont fait Journey.
Du coup, ils ont fait Journey. Non, mais une compagnie va sauver le monde.
Si tu fais une espèce de méta-univers Flow Flower Journey, l'histoire pourrait continuer, tu vois.
Vous reconnaissez l'auteur là, tu vois, qui commence à écrire sa préface. Alors peut-être, nous allons pouvoir y aller.
Mais non, c'était juste pour faire une transition. Voilà, ah là là, moi j'essaye de vous tendre des perches et vous me les rejetez dans la gueule. Bravo, belle mentalité.
Et du coup, Flower, petit succès principalement d'estime. Je pense pas que commercialement ça a été un énorme succès. Après, c'était pas un jeu non plus où il y a eu plusieurs dizaines de personnes.
C'était quand même beaucoup mis en avant par Sony à l'époque. Je me souviens où je passais sur le PSN et tu vois, c'était vraiment le Flower, tu le voyais quand tu rentrais sur le PSN. Bah,
c'est vrai que même encore aujourd'hui, des jeux totalement non violents où on ne fait absolument rien d'agressif, parce que même Flow, quelque part, tu bouffes d'autres bestioles, donc t'es quand même un petit peu dans un
truc
relativement agressif, mais Flower, ça fait partie vraiment de ces très rares jeux qui sont 100% non violents. Tu récupères des pétales, tu fais des petits chemins, et tu refais naître la nature, en fait, dans ton sillage. Donc c'était forcément pour eux, à l'époque, un besoin de mettre en avant comme ça une espèce de différence pour se distinguer de Microsoft, qui était en train de turbiner sévère avec le Xbox Live Arcade, en mettant tout un tas de jeux, de repompes, de vieux Street of Rage, tu vois, il y avait Machin versus The World, là, je sais plus comment ça s'appelait le film, là, bon, ça me revient plus, il y avait Battletoads, il y avait tout un tas de jeux qui ressortaient, des jeux un peu bourrins, un peu à l'ancienne, et du coup forcément avec Journey, Sony, ils ont profité pour essayer de se distinguer et de mettre en place la ligne éditoriale qu'ils ont toujours d'ailleurs aujourd'hui.
Bah, ils se sont bien trouvés parce que That Game Company, ils ont vraiment cette philosophie-là en fait. Leur vision du truc, c'est que dans les formes de médias traditionnelles, t'as toute une palette d'émotions à laquelle t'as accès en fonction des œuvres que tu vas prendre. Et leur constat, c'est que dans le jeu vidéo, ça tourne beaucoup autour de l'action, de la violence, et sans forcément dire que c'est mal, constater que le reste en fait n'est pas vraiment présent. Et du coup, avec Flow, Flower et Journey, ils essayent d'apporter en fait un petit peu plus de profondeur à cette palette dans le paysage vidéoludique.
Ah, c'est toi qui l'as dit. Incroyable. C'est la prise de pouvoir.
Ah, mais ça c'est génial. Non, mais voyez, il y a des voilà, tu vois, on sent qu'il y a une transition. On prépare, tu sais, la phase 2 du méta univers de fin du game avec voilà la Civil War de Max. Ça c'est incroyable.
Et du coup, donc Journey qui est sorti en 2012.
3 ans de développement, c'est ça, je crois, direct après Flower.
Ils étaient une douzaine dessus pour le faire et ça a été là pour le coup un carton incroyable.
Ouais,
ça soit commercialement
tout,
même
tout
au niveau
a marché,
critique. Ouais. Il a dépassé le sésame du 90 sur Metacritic parce que je crois qu'il a 92 ou 93. Donc c'est vraiment partie des œuvres incontournables du jeu vidéo et même encore aujourd'hui, ça l'est puisque du coup, ils ont pu tu vois, l'annoncer en sortie sur PC, c'est une double...
Oui, c'est quand même une espèce de mini-événement en soi, tu vois, que ça arrive sur PC. Moi, ce que je trouve assez incroyable, tu vois, c'est vraiment un jeu dont on a toujours entendu parler, en fait, depuis qu'il est sorti. C'est jamais un jeu qui est passé dans l'oubli. En fait, on en a toujours, tout le temps entendu parler. Alors, bien sûr, comme le fait il est ressorti plusieurs fois, il a reprofité de la sortie PS4, mais mine de rien, tu vois, il a toujours été là et... il est toujours, encore une fois, mentionné. Dès que tu parles de jeux vidéo, c'est de l'art.
Dès que c'est ça, en fait, ça fait partie de tout ce mouvement qu'on a eu depuis pas mal d'années. On le sait, le jeu indépendant, il a forcément énormément contribué à rendre le jeu un peu plus crédible, un peu plus mature, on va dire, d'une certaine manière. Ouais. Bon, je dis ça, je fais des gros raccourcis. Mais le fait est qu'il y a tout un tas de studios comme That Game Company, je veux dire, c'est également le même discours qu'on a chez Quantigrim ou quoi que ce soit, qui essayent de donner une certaine légitimité artistique aux jeux vidéo en tant que médium depuis des années. C'est pas les seuls à le faire, il y a tout un tas de studios qui reprennent à leur compte ce genre de discours-là. Le truc, c'est que That Game Company, ils ont été soutenus par Sony qui a mis énormément en avant leur jeu et il faut bien avouer que Journey à sa sortie, c'était quelque chose qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs, tout simplement.
Alors, avant de parler vraiment des qualités, ce qu'il faut retenir du jeu, on va, comme d'habitude, passer un petit peu par son histoire, même si on peut le dire, je crois qu'elle est assez minimaliste, comme tout le reste du jeu d'ailleurs, mais elle est quand même très minimaliste.
Elle est tellement minimaliste que l'histoire du jeu, c'est le titre, tu vois, c'est Journey, c'est simplement un voyage. En fait, That Game Company se sont énormément appuyés sur le travail théorique de Joseph Campbell, qui a écrit un bouquin qui s'appelait The Hero's Journey, qu'on connaît aujourd'hui comme étant la théorie du monomythe, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait une espèce de manière de raconter le passage de l'humain au divin d'une seule et seule manière, tu vois, comment on devient un héros. Bon, c'est quelque chose qui est assez critiqué, hein. Tu peux le résumer en le héros, il a des problèmes, il va casser la gueule au méchant, à la fin ça va mieux.
En fait, son postulat, Oga, c'est de dire que toutes les histoires en fait sont les mêmes, qu'elles ont toutes la même structure, alors que bon, c'est pas.
Dans les faits, c'est pas tout à fait le cas.
Mais en revanche, c'est vrai que c'est une. Sa structure narrative, c'est vrai qu'on peut la retrouver dans beaucoup d'objets de culture, de pop culture. On sait que par exemple, George Lucas avec Star Wars, il a vraiment repris à son compte ce truc-là. En gros, la structure, c'est quoi ? C'est le héros, il va partir un peu à l'aventure, il va rencontrer un mentor, il va rencontrer des petites péripéties, il va tomber, il va toucher le fond complètement, et ensuite il va pouvoir renaître, affronter les épreuves, il y a un climax, et c'est reparti, il revient où il était au départ, mais avec toute la sagesse qu'il a accumulée.
Il revient vers ses proches, avec tout son savoir.
Et c'est vrai que toute l'histoire de journée, ça se résume à ça, parce que début du jeu, tu vois une espèce de petite loupiote qui apparaît et qui arrive, et hop, tu vois apparaître le personnage du jeu, il découvre la lumière vers laquelle il est attiré, parce que tu vois cette énorme montagne avec la lumière, tu vas y aller, tu vas avoir toutes les péripéties que t'as déjà racontées, ça va monter, ça va descendre, à la fin, ça monte, mais il fait trop froid, malheureusement,
ça s'arrête, tu tombes,
et là, boum, le vrai climax commence, en fait, finalement, tu n'étais pas mort, tu étais comme un saiyan, tu vois, beaucoup plus fort, quand tu es proche de la mort, et du coup, tu es beaucoup plus fort, c'est ça, super guerrier, super écharpe, et du coup, tu peux voler, en fait, dans ce dernier niveau qui est complètement fou, avec justement la musique qui s'appelle Apothéosis, pour, encore une fois, en mention au système à la structure du monomythe, et à la fin, tu deviens une petite lumière, toi aussi, et tu reviens... au début du jeu.
Et on dit que c'est sorti du monomythe, c'est vraiment pas tiré de notre chapeau, hein, c'est vraiment explicité, Genova Chan l'a quand même mentionné plusieurs fois, il reprend vraiment même la structure même, les petites variations et tous les étapes, c'est calqué, quoi. C'est vraiment le décalcage du monomythe transformé dans un jeu vidéo, on fait pas grand chose.
Il a aussi repris la structure connue, qui est la structure en trois actes, tu vois, quand t'écris des scripts et tout, parce que lui, donc, il avait étudié un petit peu dans ce milieu-là, il a dit c'est simple, j'ai pris en gros le monomythe, la structure en trois actes, c'est juste grosso modo un début, milieu, fin, avec un twist au milieu, un climax avant la fin, je les ai alignés, ça correspondait plutôt bien, hein, le monomythe, ça va être une version un peu plus détaillée de ça, avec plus d'étapes, et voilà.
Quel hasard, incroyable.
Et il a fait son level design à partir de ça.
Mais c'est vrai que du coup, il a fait toute une conférence, hein, toute une série de conférences à la GDC, où il expliquait justement en détail le processus créatif, et pour tout ce qui est découpage narratif, enfin, je veux dire, quand tu vois leur schéma, c'est littéralement simple, voilà, ils se sont pas pris la tête, ils ont pris les structures, ils ont pris les mêmes noms, d'ailleurs ces noms-là de chacune des étapes du monomythe, on les retrouve dans la bande originale d'Austin Wintory, et du coup à la fin, ça, ils ont secoué très fort, ils ont mis du sable et hop, ça a donné Journey.
Alors je pense qu'ils ont fait peut-être un poil plus que ça.
Tu crois? Non. Mais... y a pas, le jeu vidéo, c'est pas genre t'appuies sur un bouton et c'est bon.
Bah, tu prends deux personnes, tu les mets devant un petit bureau, hop, tu leur dis faites-moi un jeu, hop, c'est parti, Bloodborne.
Okay. C'est facile, ouais, non, mais je le savais.
Alors, il y a quand même une espèce de micro-histoire, hein, puisque l'idée, c'est qu'il y a une espèce de... On avait noté post-apo dans notre petit conducteur. Il y a un côté, il y a une espèce de civilisation qui s'est fait recouvrir. Il y a que du sable partout. Et puis, au fur et à mesure de notre petit voyage, on va pouvoir comprendre plus ou moins ce qui s'est passé. Mais bon, ça va pas
en tout cas, on va pouvoir l'interpréter. Ce qui est rigolo, c'est que ça fait appel à l'imaginaire. Dans Journey, comme dans les autres jeux, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de voix, il n'y a vraiment aucune narration traditionnelle. Tout va passer par l'imaginaire et le fait de trouver des tapisseries. Donc t'es un peu face au truc classique de l'archéologie dans le jeu vidéo, où tu vas trouver des choses et tu vas du coup en tirer des conclusions en te disant « Ah oui, mais il y avait des bonhommes, ils me ressemblaient, ils avaient aussi une écharpe, mais eux, ils étaient tout blancs, pourquoi ?» Bah tu comprends que les tout blancs, c'est les mentors, c'est eux qui étaient sages et qui vont t'aider à atteindre la lumière, et tu vas pouvoir interpréter ce que t'as bien envie d'interpréter. Hein. Là-dessus, c'est libre, on va pas partir dans les grandes théories.
Promis. Non, c'est pas forcément nécessaire, et puis de toute façon, on y reviendra tout au long de l'épisode, mais c'est quand même un jeu qui est surtout dans les sensations plutôt que vraiment dans quelque chose de
très explicite. C'est plus que de la suggestion et comme tu dis, provoquer des émotions en utilisant justement ce rythme narratif qu'on retrouve tout au long.
Et du coup, aujourd'hui, on le disait, c'est vraiment un jeu iconique, un truc très qui a une place vraiment très très particulière dans le jeu vidéo. Et je pense que la première raison pour laquelle on peut retenir vraiment Journey, c'est d'abord son approche du multijoueur. Moi, je sais que quand je me suis lancé dans le jeu, et pourtant je m'y suis lancé pas à sa sortie, je crois que j'ai dû jouer sur PlayStation 4, donc tu vois, c'était au moins après 2015, je ne savais pas qu'il y avait du multi dans Journey. Je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté de cette info, pourtant c'est un jeu dont j'avais entendu parler, mais j'avais pas du tout compris cette histoire de multijoueur, et en fait c'est assez intéressant. Alors du coup, on peut dire comment ça se passe. En fait, dans le jeu, on fait le premier petit chapitre où on est dans le désert, et ensuite on va tomber sur un autre personnage qui nous ressemble, et en fait il se trouve que c'est tout simplement simplement un autre joueur qui est en train de jouer au jeu en même temps que nous.
Ouais, c'est en fait ce qui est assez intéressant avec Journey, c'est qu'ils ont pas du tout forcément. C'est pas qu'ils ont pas mis en avant le côté multijoueur, c'est que comme c'est minimaliste même dans l'interface, tu commences juste une nouvelle partie, ouais. Tu vois, t'as 2-3 options histoire de choisir si tu veux de la vibration ou pas, tu vois, ça se limite à ça globalement. Et quand tu lances le jeu, tu ne sais pas que ouais. Tu es connecté au PSN. À l'époque, souvenez-vous, c'était gratuit. Et du coup, en fait, suffisait d'être connecté à ton PSN ouais, parce ouais. que comme t'avais téléchargé le jeu, hein, c'était un jeu des maths, donc tu pouvais que le télécharger et tu te rendais compte que il y allait avoir d'autres petits bonhommes. Tu pouvais détecter le fait qu'il s'agissait de bonhommes différents, d'autres personnes à travers le monde qui étaient différentes, parce qu'en fait, dans le jeu, tu as très peu d'action, tu peux sauter ou tu peux faire un bruit plus ou moins fort selon que tu vas appuyer plus ou moins longtemps sur la touche rond, et tu vas avoir une petite note qui va apparaître au-dessus de ta tête, qui est une lettre, c'est une espèce de petit pictogramme qui change ouais. en fait en fonction du joueur que tu es. Ton picto, il est déterminé au moment où tu recommences une partie, et du coup, au fur et à mesure du jeu, tu vas peut-être te rendre compte que tu as joué avec 4-5 personnes différentes.
Ça, je sais pas, tu vois, ça, j'ai pas attention que qu'on était associé à un picto.
Si, si, ouais, le picto okay. en fait il détermine qui tu es, alors il n'y en a pas tant, donc du coup des fois tu vas avoir l'impression que c'est la même personne. Moi typiquement dans ma première partie j'avais l'impression d'avoir joué avec seulement 2 autres personnes, en réalité j'avais joué avec 7 autres personnes, et tu le découvres en fait à la fin, parce que pendant les crédits et pendant que la petite lumière revient au point de départ, tu vois les identifiants des personnes, les identifiants PSN des gens que tu vois. Mais pendant que tu joues avec eux, tu ne peux pas communiquer avec eux de manière traditionnelle, tu peux pas leur envoyer de message et tu ne sais pas qui ils sont.
Bah d'ailleurs, moi, quand je l'ai vu arriver pour la première fois, je croyais que c'était une IA. Je me suis dit, tiens, il y a un petit personnage qui arrive, et c'est au fur et à mesure que j'ai observé son comportement, je fais, bizarre, les algos qui régissent cette IA, elle doit être un peu particulière. Et après, j'ai compris, effectivement, que c'était une autre personne.
Il y a peut-être un nom pour ça, c'est l'inverse de l'Uncanny Valley.
C'est marrant, c'est exactement ouais. ce à quoi je pensais. Je me disais, tu sais, on nous a tellement habitués à jouer avec des IA, à avoir des compagnons, enfin, c'est quelque chose maintenant qui est quand même très, qui est beaucoup vu dans le jeu vidéo. On a l'habitude de les voir se comporter, comment elles se comportent, leur façon de se réagir, d'être un peu scripté à certains moments, et à d'autres de faire un peu des trucs teubés, et là c'est vrai que je la regardais vraiment genre
est-ce que t'es
une entité intelligente ou est-ce que t'es juste un ensemble de règles, et bon ça m'a pas pris beaucoup de temps pour comprendre que c'était un
Hugo il personne. A théorisé le Turing test pour savoir si une IA peut passer pour un humain ou pas, incroyable.
Pour le coup effectivement j'ai compris que c'était un humain, mais c'était une vraie surprise en tout cas quand j'ai joué, et une bonne surprise parce que malgré tout c'est vrai que ça apporte quand même beaucoup à l'expérience, le fait de la partager avec une autre personne avec laquelle tu peux communiquer qu'avec des moyens extrêmement limités, quoi.
Enfin, presque paradoxalement, tu vois, c'est une des idées fondatrices de Journey, au final, ouais. de vraiment mettre la coopération plutôt que la compétition en avant, mais c'est complètement optionnel, puisque y a la réalité ouais. économique derrière. Quand tu fais un jeu pour Sony, ils disent, non, en fait, vous n'avez pas fait un jeu où il faut forcément faire de la coop.
Oui, en fait, Sony, je crois qu'ils voulaient absolument que tu puisses le faire en solo. Ouais. Voilà, il faut que ça puisse être solo.
Ouais, c'est la ligne éditoriale hein, de Sony, de toute façon, hein, je veux dire, ils le répètent depuis des années avec les The Last of Us, ouais. les God of War, etc. Ils veulent faire des jeux solo, on va dire, un petit peu marquants pour des adultes. Voilà, ouais. c'est leur ligne éditoriale résumée en quelques mots. Et surtout, y a aussi un principe pratique, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y allait plus avoir personne qui joue au jeu. Donc si ton jeu, il était prévu ouais. que pour de la coop, au bout d'un ouais. moment, tu ne peux tout simplement plus faire.
Plus jouable. Mais c'est vraiment l'idée centrale de Journey. Ils s'inspiraient, mais ils sont partis au début un petit peu du MMO. Ils ouais. ont dit, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, et ils se rendaient compte quand même que parmi tout ce qui fonctionne pas, déjà tu peux te faire insulter, enfin il y a une certaine toxicité sur internet évidemment. Il y a aussi ce côté Genoma Chen, je crois que c'est lui qui dit ça, qui parfois tu te sers des autres comme d'un outil
pour
battre le boss. En fait ton objectif c'est de battre le boss, et les autres tu vas te servir d'eux juste pour atteindre ton objectif un petit peu plus égoïste. Ça mêle un peu la toxicité, mais le fait de voir les ID PSN qui parfois sont un peu débilos, ça peut te sortir du jeu, ou de te rendre compte
XX,
que
Genova
ouais le mec déjà s'il s'appelle Genova tu vois ça peut te sortir
le mec du il la ramène, mais il s'appelle Genova Chen quand même. STP
c'est un fan de FF7, qu'est-ce que tu veux, ça arrive hein.
Souvent il le dit plusieurs fois ça, que si tu te rends compte qu'au final c'était un garçon de 12 ans, ça peut être un peu si t'es un adulte qui joue, ça peut être un petit peu décevant en fait quand tu t'attendais peut-être jouer, c'est lui qui en parle.
Non mais ce qui est... ouais, ils ont... Il y a vraiment cette démarche, il est parti du MMO en se disant, à la base, le truc, c'est de faire quelque chose de social, mais en fait, le système de jeu, le fait qu'il y ait du loot, qu'il y ait des quêtes, qu'il y ait des trucs, ça t'incite à ne finalement te concentrer sur des buts assez égoïstes et à vouloir être dans la progression, etc. Et en fait, c'est vraiment ce qu'ils ont fait avec Journey, c'est se débarrasser, se dépouiller de tout système qui pouvait t'inciter justement à ne pas aller vers de la coopération et aller vers de la confrontation. Et c'est même jusqu'à aller d'enlever, au début, il y avait des collisions entre les deux personnages et tu pouvais te pousser vraiment et je sais pas, te faire tomber ou des trucs comme ça.
En fait, c'était une vraie mécanique où tu pouvais genre faire monter ton pote en le poussant.
Et du coup, ils ont enlevé ça parce que ils se rendaient compte pendant les playtests que c'était amusant de se pousser ou des trucs comme ça et ils voulaient se débarrasser complètement de ce truc là. Et alors c'est marrant parce que juste avant qu'on prépare l'épisode, je regardais une vidéo sur YouTube qui parlait de Wall-E, vous savez, le dessin animé, et en fait il parlait sur un truc sur la sociologie. Il expliquait que, vous savez, par exemple le Monopoly, vous pouvez être le mec le mieux de la terre, le plus altruiste, en fait les règles du Monopoly font que tu vas devenir greedy, que tu vas devenir avide, égoïste et que tu vas pouvoir enterrer les autres puisque c'est le but du jeu de toute façon. Et il essayait d'expliquer que c'est ça, c'est les règles du système qui vont dicter ton comportement. Et c'est vraiment ce qui se passe dans Journey, c'est ils ont épuré tous les systèmes et mécaniques qui pouvaient te dicter vers un comportement nocif, de confrontation, d'affrontement, et ils sont vraiment concentrés sur uniquement la coopération. Et même plus tard, finalement, on s'est rendu compte que c'est plus du partage que de la coopération, puisqu'il y a, comme il faut que ça fonctionne en solo, il n'y a pas de mécanique où tu dois être à deux, par exemple, pour pousser un rocher, pour pouvoir l'avancer. Quoi.
Ça, au début, ils ont beaucoup prototypé en 2D, ils en montrent où il y a plusieurs mécaniques de coopération. Tu vas pouvoir faire monter ton binôme, soit en mettant une corde, ou alors en le poussant, ou alors, je sais pas, en faisant des cris, tu peux te coordonner, faire certaines choses. Mais comme tu le disais, il fallait que l'aventure se fasse tout seul. Du coup, ils ont dû vraiment minimiser l'impact que pouvait avoir un binôme, tout en gardant une certaine proximité. Donc, comme tu disais, tu as les sons que tu peux émettre des petits sons, des grands sons, et ces deux sons, ils sont ils se répondent entre eux. Il y a un certain accord, en fait.
Oui, voilà, il y a des petits accords. Alors, je sais pas comment c'est généré. Je pense qu'ils ont dû programmer
des trucs comme ça. Ce qui est assez fascinant avec ce principe-là, c'est que du coup, comme tu l'as dit, ils ont épuré. Donc, à partir du moment où tu ne donnes pas de pistolet aux gens, ils arrêtent de se tirer dessus. Coucou les États-Unis. Et ce qui s'est passé dans Journey, c'est que, à force d'épurer et d'enlever même le principe d'avoir besoin de l'autre, on ne considère plus l'autre en fait comme un outil, comme tu le disais. On n'est plus dans l'utilitarisme, on est simplement dans la rencontre avec l'autre personne. Ouais. Et cette rencontre avec l'autre personne, comme tu ne disposes pas de tes moyens de communication habituels, qui est le PSN à base de... avec un vieux micro dégueulasse, tu vois, comme dans Fortnite, et du coup, tu es obligé de communiquer avec eux avec les moyens du bord et de découvrir et même de créer, en fait, un langage. Et la rencontre en elle-même, en tout cas dans Journey, moi, c'est vrai que je l'ai ressenti comme ça, la rencontre avec l'autre personne, quand tu découvres qu'il s'agit, effectivement, d'un autre être humain et non d'une IA, mon cher Hugo, elle est assez fascinante parce que je pense que tout le monde a une histoire différente à raconter sur Journey, ce qui, en soi, est déjà une qualité pour le jeu, le fait qu'on n'ait pas tous vécu la même chose. Mais pour ma part, je sais que avec les première personne, la toute première fois que j'ai joué au jeu, donc c'était vraiment à la sortie, je me suis jeté dessus à l'instant où il était dispo, je l'ai récupéré, et on a commencé alors à comprendre qu'on pouvait cliquer. Quand moi je faisais du son, l'autre il me répondait génial, je peux faire du son, alors genre je fais deux fois pour oui, deux fois pour non, ah oui mais comment il va savoir que moi j'ai pensé à ça, alors tu commences à essayer de faire des cercles, parce que tu peux faire des petits dessins dans le sable, mais oui non mais ça va être trop chiant, parce que si j'écris et qu'en fait il écrit pas dans le même alphabet, on est dans la merde. Et au final on se rend compte petit à petit qu'on arrive à se comprendre, parce que de toute façon on a le même objectif, et donc on essaye d'y aller ensemble. On n'a pas besoin de l'autre, mais on veut quand même y aller ensemble. Et je me souviens d'un moment où l'autre, je l'ai vu disparaître. Il a disparu dans le cran de chargement et je ne l'ai pas revu après. C'était un vrai déchirement, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé j'aurais pas dû prendre le... Tu vois, genre, je suis passé dans le portail trop tôt, je ne l'ai pas attendu. Il a perdu sa connexion Internet. Enfin, tu te fais tout un film dans ta tête. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'avec aussi peu de moyens, tu te rends compte qu'il y a une liaison qui est finalement beaucoup plus intense qu'avec tous les outils qui nous donnent d'habitude. Donc je trouvais ça très intéressant, ce paradoxe.
Ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'en fait, comme il n'y a plus ces problématiques de confrontation, toutes ces mécaniques, tu rentres dans une espèce de relation de confiance, tu vois, tu sais qu'il peut pas, on peut rien te faire, tu vois, tu n'es au carisme, il va pas te tuer, il va pas te taper, il peut pas avoir un comportement nocif vis-à-vis de toi, et du coup, je sais pas, une espèce de fascination un peu avec l'autre, t'as envie de le comprendre, je pense que c'est vraiment la réussite pour ce multijoueur, c'est de nous donner envie de comprendre l'autre, quoi, de dire, ok, comment il fonctionne, est-ce qu'il en a rien à foutre de moi, et pourquoi pas, Moi, je sais que pendant ma partie, il y a eu un moment où il y en avait qui n'en avaient rien à foutre, il faisait sa life. Mais il y a eu une fois où il y avait, je sais pas, est-ce que c'était un gamin, est-ce que c'était quelqu'un qui jouait pas beaucoup, j'en sais rien, qui était un peu paumé, tu vois, j'avais l'impression. Et du coup, tu sais, parfois quand je voulais l'emmener vers un endroit, je tournais autour de lui et je l'emmenais vers une direction, tu vois, pour essayer de le guider, tu vois. Et ça, c'est quand même assez fort, quand même, d'arriver à créer ça de manière aussi épurée. Je trouve qu'il y a quand même un petit coup de génie dans le côté d'enlever toutes ces mécaniques-là pour arriver à créer ça.
Eh bien, Hugo, nous l'avons retrouvé. Il est là.
C'est génial.
ton binôme de journée. Ah,
c'est le rideau
Dark
qui s'ouvre.
Dark Sasuke 69.
Il est là. Ça, mais envoyez de l'argent à Max, hein, c'est rire. Oh là là, excellent.
Ah, ce serait...
J'en ai tellement pas.
Ça serait pas mal, ça serait pas mal.
Ah, ce serait trop fort. Et oui, Sasuke du 63 est avec nous.
Il a eu son brevet. Félicitations.
Depuis, ça y est, il est en train de passer son bac là cette année.
Tu te souviens quand j'ai fait tweet tweet et toi t'as fait quick quick? Ah bah oui, c'était génial.
Ah putain.
Sinon, la petite mécanique qui est vraiment cool dans le journée qui renforce aussi ça, c'est
il
que...
arrive à reprendre son sérieux.
Ah bah, il est très fort, il est très très fort.
Ah bah, ton professionnel. c'est que, tu sais, t'as une écharpe qui peut s'allonger quand tu trouves des petits collectibles, ouais. Et elle se décharge quand tu planes, et quand tu te colles à l'autre, ça la recharge. Et moi, avec mon binôme, on cherchait les collectibles ensemble, et on spammait la note quand il y en a un qui trouvait, parce que t'as vraiment... Alors oui, pour revenir juste les collectibles, c'est des petits trucs que tu trouves un petit peu qui sont cachés dans la carte.
C'est des trucs qui flottent un peu, c'est des petits morceaux d'écharpe supplémentaires.
Des orbes un peu qui brillent.
Ah non, d'accord.
Ces orbes.
Non, en fait, c'est les. Non, c'est les. Pas marqué, hein. C'est les petits pictos. C'est les petits pictogrammes qui flottent.
Ah, oui,
et quand
oui,
tu les récupères, ça, hop, ça agrandit un petit peu ton écharpe.
Ça allonge un peu ton écharpe. Du coup, nous, on avait une écharpe qui était un petit peu plus longue. Tu vois, on se la pétait dans le désert.
On avait des écharpes longues.
Et instinctivement, quand t'as fini de planer, du coup, tu vas te coller à l'autre pour que ça recharge ton écharpe. Donc, il y avait un côté un petit peu animal, tu vois, je trouvais, dans ce côté, tu vas te coller à l'autre.
Ce qui est intelligent, c'est qu'il n'y a pas seulement la dépouille de toutes les mécaniques de confrontation, il y a aussi quand même des petites incentives pour t'encourager à te rapprocher de l'autre. Et c'est vrai que ce côté, je peux aller récupérer finalement mon énergie, on peut se recharger notre seau en étant collé à l'autre, forcément, tu vas pouvoir le faire, quoi.
Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que c'était pas prévu comme ça au départ, mais Journey, ça peut être effectivement utilisé en sociaux pour faire tout un discours sur les moyens de communication et comment éviter l'agressivité entre les autres, tu vois. Ouais. Parce que forcément, dans un jeu vidéo, on s'en rend pas compte, mais le fait qu'on soit en permanence poussé, alors Fortnite est en train de nous expliquer que finalement ça c'est faux, on y reviendra si vous voulez, mais le fait de nous donner des armes, etc., forcément, ça nous pousse vers un type de comportement. Ouais. C'est vrai que la Fortnite est en train de démonter ça, puisque les gens arrêtent de jouer à Fortnite et dansent et participent à des concerts et font en train de transformer le jeu en une expérience sociale complètement incroyable. Donc d'ici quelques années, je pense qu'on pourra en reparler.
Parce que justement, Fortnite, peut-être contrairement à beaucoup d'autres jeux, arrive à toucher un public tellement large que ça permet d'attirer finalement des comportements nouveaux qui n'étaient pas...
Ouais, je pense que tu vois, il y a des gens qui en fait ne réagissent pas en se disant j'ai une arme, il faut que je tire sur les autres. Tu vois, nous on a compris ça depuis longtemps, on voit un méchant, on lui tire dessus. Mais en fait, là, effectivement, je pense que c'est ça, c'est qu'il y a tellement de nouvelles personnes et de jeunes joueurs, hein, parce qu'on le sait, ça touche principalement un public de jeunes ados, qui commencent en fait à détourner le principe du jeu, et Epic, pour le coup, se sont vraiment saisis du truc, et sont en train de transformer petit à petit Fortnite en quelque chose de complètement différent. Si vous pensez encore que Fortnite, c'est un Battle Royale, ça fait très longtemps que vous n'y avez pas joué.
Même s'il y a toujours le Battle Royale.
Oui, mais plus personne, il y a plus de... à part les compétitions et tout ça.
On vient d'avoir une
compétition. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'au quotidien, la plupart des mômes, tu vas lancer une partie de Fortnite, ils ont le téléphone collé à leur micro, ils font écouter la dernière chanson sur YouTube, ils discutent entre eux, au bout de la partie ils meurent, ils recommencent une autre partie.
Les enquêtes d'Exerf, c'est striptease.
Ben oui, non, mais c'est vraiment fascinant. Moi, je trouve ça vraiment fascinant, tout cet aspect-là. Et bon, le truc, c'est pour revenir à Journey, là, ils ont réussi, en fait, à créer tout un système de communication qui était extrêmement basique, primaire, mais qui permet vraiment d'aller vers l'autre.
Ouais.
Et ça, moi, en tout cas, ça m'a donné des souvenirs que j'ai encore jamais revécu dans un jeu vidéo. Il y a le seul truc, et je suis désolé, je suis obligé de le citer, dans No Man's Sky, tu pouvais, à un moment, quand ils ont commencé enfin à mettre du vrai multijoueur récemment, tu pouvais, du coup, des fois, tomber comme ça sur un autre joueur de manière un petit peu inopinée en arrivant dans un nouveau système, et j'ai ressenti un petit peu ça. Alors là, bon, c'est plus classique, on peut chatter, etc. Mais voilà, ce fait de tu joues tout seul et d'un coup il y a une autre personne qui arrive sans te prévenir, sans écran de chargement, sans gros flash à l'écran du genre
ça,
New Challenger,
oui,
etc.
Voilà, machin est rentré, a envahi votre monde.
Et il y a un petit côté un peu magique à tout ça, et il n'y a que le jeu vidéo finalement, je pense, qui peut permettre ce genre de truc.
Donc ça, c'était un des aspects vraiment qui a bien fonctionné et qui a marqué les gens, même si, faut quand même reconnaître, on a vu, il y a certaines personnes sur Discord qui nous ont mentionné que leur expérience n'a pas été aussi positive parce qu'ils ont pu croiser des personnes qui n'en avaient rien à foutre, avec qui ils n'ont rien partagé. Et c'est vrai que du coup, quand tu crées une expérience qui, même si elle ne dépend pas uniquement de ça, puisqu'elle est aussi faite pour être en solo, c'est vrai que si tu vis pas ça, si tu ne vis pas cette rencontre, ce partage, le jeu est probablement un peu moins sympa. Ça c'est clair.
Ça m'avait surpris en fait de lire les retours. Tu vois, je m'attendais à ce que quand on ouvre le salon Discord, ça allait être
l'amour,
tu vois, de l'amour partout qui allait arriver. Pas du tout. Non, il dit oh, ben non, moi le type il a speedrunné la zone, j'ai rien pu faire, j'ai rien compris, je sais pas ce qui s'est passé, il s'est barré. Et c'est vrai que tu dis oui, forcément,
Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont repris sur PC et du coup qu'on l'ont fait un peu en rush comme ça, qui l'avaient déjà fait et finalement qu'on pas eu ce. Moi, mes meilleurs moments c'était quand j'étais avec quelqu'un, je savais qu'il n'avait pas fait le jeu, tu vois, vraiment, on découvrait ensemble, et ça c'était vraiment le meilleur moment dans
sachant
le jeu,
que quand tu termines le jeu et que t'as découvert absolument tous les petits collectibles et toutes les petites tapisseries, tu deviens toi-même un mentor, donc tu peux aller récupérer dans le hub central la tenue blanche qui te permet d'avoir à l'infini, enfin ton écharpe se régénère, et du coup quand toi t'es tout blanc et qu'il y a un autre personnage qui est rouge qui arrive à côté et qui te voit, enfin la première fois que j'ai fait ça où tu te dis la personne je vais t'aider, viens je vais te montrer le chemin petit bonhomme, c'est peut-être pour ça que je fais des guides d'ailleurs depuis, j'en sais rien, tu vois, voilà. Ça m'a peut-être marqué, voilà. Non, j'avais déjà commencé avant, mais ça aurait été une très bonne origin story, je vais la garder pour plus tard. Et du coup, y a la personne, tu la vois, tu sais, genre elle s'arrête pendant 2 secondes, puis elle commence à faire bip bip avec son petit truc, parce que tu te dis, elle se regarde, mais... ce qui est génial, c'est qu'elle ne peut pas l'exprimer, tu vois, elle ne peut pas exprimer la surprise, mais toi, tu la ressens comme ça, tu te dis, hé... J'ai pas la classe moi avec ma tenue blanche.
Ça n'a rien à foutre, c'est dit qui c'est ce relou, est-ce que c'est un boss, est-ce qu'il faut taper
il faut faire des roulades, qu'est-ce qui se passe.
Mais elle est intéressante cette robe blanche là du mentor qu'on peut devenir, parce que c'est encore un truc qu'on peut complètement interpréter d'après le mythe du héros, où vraiment la fin du mythe, quand c'est résumé en quelques phrases, c'est vraiment le héros revient parmi les siens ou chez lui, et il va pouvoir un petit peu faire profiter de son expérience, de tout ce qu'il a acquis jusque là.
Ouais. Il y a un autre truc aussi qui est vraiment impressionnant finalement, et tu parles du truc avec le monomythe, c'est tout le rythme finalement de la progression dans le jeu, parce que comme on le disait, donc ils ont vraiment calqué ça là-dessus, mais il le racontait, Genova Chen à la GDC, c'était pas évident finalement à te faire ressentir en fait toutes ces étapes, genre ce moment vraiment un peu de détresse quand on est dans la montagne, et ensuite cette espèce d'euphorie au passage final là, quand on virevolte au milieu des espèces de méduses, de trucs un peu de dragon en écharpe. Il l'a expliqué, au début, en fait, au bout de 2 ans de développement, ils ont fait des playtests et en fait, les gens, ils étaient un peu genre « Mais, tu vois, genre, on s'emmerde un peu. » Et finalement, ce qui est assez... assez fascinant dans un jeu aussi minimaliste que ça, c'est que tu comprends tout le travail qui a été fait justement pour accentuer les sensations de détresse et d'euphorie, et ça passe par exemple dans le passage sur la montagne, au début, au bout de 2 ans de développement, il était très court, et en fait ils l'ont allongé énormément, ils ont vraiment allongé le passage, tu sais, où tu vas vraiment marcher tout doucement.
Tous les passages où il y a le vent qui te repousse en permanence, ils l'ont renforcé pour que tu sentes vraiment la difficulté.
Ils ont créé un autre set d'animation vraiment pour que tu plies sous le poids du vent, que ton écharpe elle se gèle, donc ils ont créé vraiment des trucs spécifiques pour ce passage là ils ont aussi rajouté les espèces de léviathans là, les grosses bestioles qui peuvent nous attaquer, pour encore accentuer cette espèce de sentiment de sans espoir, un peu de désespoir, on va dire, te dire tiens, je suis attaqué de toutes parts, il y a le vent, j'y arriverai pas, donc ils ont vraiment rallongé ça pour laisser vraiment infuser le truc, qu'on le ressente bien, et ensuite pour pouvoir casser, et après là l'espèce de passage d'euphorie, ils ont vraiment augmenté la liberté, tu peux vraiment virevolter sur plein de trucs, ils en ont foutu beaucoup plus en fait, pour que l'euphorie dure plus longtemps, et que t'aies vraiment une espèce de différentiel d'émotion entre ces deux passages, qui soit vraiment fort, pour que tu puisses ressentir cette structure, ce rythme, et cette espèce de d'apothéose, tu vois, comme ils l'appellent, pour que tu puisses ressentir la structure du monomythe, quoi.
Ça c'est un truc qu'ils ont complètement théorisé aussi, ce qu'on disait dans la structure, déjà elle était assez pas scolaire, mais vraiment établie, tu vois, avec le monomythe, ou la structure en 3. Et à côté de ça, ils avaient aussi l'intensité des émotions qui allait d'une échelle, je sais plus, de 0 à 6 ou un truc comme ça. Et vraiment, là, c'était telle étape, ça va être 2, ça va être 3, là, on va mettre 0 et ensuite 6, tu vois, pour vraiment faire le grand pic différentiel. Et parfois, ça tient, comme tu disais, à vraiment pas grand chose au début. Parce que Journey, je crois que c'est Jonathan qui disait, ça peut aussi être un peu calqué sur le passage à l'âge adulte, tout simplement. Ouais. Où au début, t'es enfant, tu vas expérimenter.
Oui, de toute façon, c'est une transformation. Le monomythe, c'est une transformation. Oui, oui. Tu pars un voyage et à travers ce voyage, voilà, tu attrapes quelque chose et c'est
il y a plein de choses que tu peux calquer dessus. Et au début, en fait, il y a ce côté, ils disaient, on voulait donner un côté un peu insouciant, tu vas explorer, tu peux pas te prendre de dégâts, tu vas rouler dans le sable, tu vas pouvoir glisser dans le sable. Et rien que la glissade sur le sable, tu vois, ça c'est le genre de petit détail tout con. Nous, on pourrait l'expédier en 10 secondes, on dit, ah, on glisse sur le sable, c'est plutôt cool. Et ça se trouve, ça a pris 6 mois, tu vois, avant d'être vraiment bien comme il faut dans les mains.
Bah, surtout que t'as vraiment une super sensation, parce que t'as une vraie sensation de glisse, t'as une énorme inertie qui te permet de faire des zigs et des zags, et c'est vachement sympa. Et dès que tu commences à avoir un petit peu de vitesse, justement, en prenant de la vitesse, parce que le principe de l'écharpe, c'est de te permettre de sauter, et donc comme tu flottes, hein, parce que c'est ce personnage avec ses robes, quand tu vas atterrir, comme tu le dis, selon l'angle, tu vas plus ou moins glisser, repartir aussitôt, et du coup, ça donne en fait une espèce de fluidité dans les mouvements et dans les déplacements du personnage de Journey qui je trouve encore aujourd'hui est assez unique. Je lisais encore une fois sur le Discord des gens qui trouvaient que c'était assez lent, et c'est vrai que pendant les premières minutes du jeu, tu sens en fait cette lourdeur du personnage, parce que il galère, marcher dans le sable, c'est rien de facile, et à l'instant où tu peux commencer à planer, à glisser et à utiliser de manière un petit peu optimale les outils qui te sont donnés, le jeu, ça, c'est vraiment, il y a... C'est un truc, ça s'arrête pas. Et c'est ça, moi, j'ai vraiment retenu, en fait, c'est cette idée que la progression, elle est particulièrement bien rythmée, et ton personnage ne s'arrête jamais, puisqu'il n'y a pas vraiment d'obstacle, il n'y a pas vraiment de challenge non plus, et donc tu ne fais que profiter, sachant qu'évidemment, tu parlais du contraste entre la fin et l'apothéose, il y a évidemment le niveau 3, qui est la grande descente.
Ouais, dans l'espèce de grotte, là, avec les...
L'énorme descente, en gros, il y a une petite énigme où tu dois libérer différentes personnages écharpes, et ensuite, hop, il t'emmène avec eux, et là tu pars dans une grande descente avec une petite musique qui redémarre. Tu dois passer au milieu des espèces d'arches de pierre avec les couleurs qui changent. À un moment donné, le sable il prend une couleur, on dirait du chocolat, c'est un petit peu velouté.
C'est vraiment un temps fort quand même.
C'est un des trucs, je pense.
C'est difficile de pas être marqué par ce moment, tu vois. Même moi, quand j'ai joué au jeu, j'essaie d'être un peu blasé, tu vois, mais franchement, ça m'a pas laissé indifférent parce qu'il y a une espèce de plaisir comme ça, de la contemplation, en fait, t'es dans cette espèce de grande glissade, comme tu le dis, il y a cette espèce de couleur un peu, ça commence à devenir doré, ça devient très chaleureux, en fait, avec cette couleur-là, et ça te berce, en fait, et il y a un côté vraiment, c'est vraiment un temps fort de ce jeu-là, et je pense que quand on repense à Journey, c'est probablement une des premières images qui te vient en tête.
Et là où c'est très bien pensé sur le niveau du rythme, c'est que donc t'as ce passage-là avec les couleurs qui changent, ensuite t'as la caméra sur le côté avec toutes les arches qui te permettent de voir une immense cité en contre-jour, avec le soleil qui est en train de se coucher, et à la fin tu te casses la gueule. Vois, c'est vraiment, tu vois la ville, tu penses que tu vas la toucher, et ben non, tu tombes, et c'est là où tu commences à arriver dans ce passage.
Vive
vraiment
le roi.
Tu tombes complètement au fond là de cette grotte, et tu te réveilles dans un truc où c'est beaucoup moins animé, etc. Et ce que je trouve qui est intéressant au niveau de ce qu'on peut en retenir, en tout cas en termes de narrative design, c'est que c'est pas de maintenir en permanence, tu vois, des intensités énormes, justement la succession de moments plus ou moins forts permet de renforcer le passage d'un état à un autre, en tout cas pour le joueur, et ça marche à fond.
De toute façon, ça c'est vraiment la première règle de ce qu'on appelle le pacing, donc vraiment le rythme d'une aventure, c'est justement de ne pas garder la même intensité, c'est vraiment de faire des fluctuations, de créer des temps morts, de créer des temps intenses, et il faut vraiment te faire virevolter comme ça, et c'est vrai que c'est un jeu qui sur sa petite 2h30 maîtrise ça, mais vraiment à la perfection, quoi.
Parce qu'il a une approche extrêmement académique, tu vois, c'est ce qu'on l'avait dit. Comme ils se sont basés sur des schémas qui ont fait leur preuve, que ce soit dans la pop culture ou dans d'autres trucs, ils ont essayé de l'adapter, et après, par contre, ils ont passé effectivement énormément de temps à soigner des tout petits détails. Donc on l'avait dit, la glissade dans le sable, le fait que tu roules pour te relever juste derrière, c'est des petits gestes, on l'a déjà souvent dit, hein, le jeu vidéo, c'est des petits riens qui vont te donner du plaisir, c'est ce genre de petites récompenses. Tous ces petits mouvements-là, tous ces petits gestes, tu vois, les petites virées de sable à chaque fois que tu fais un petit pas, c'est des petits trucs qui te procurent un truc, c'est complètement infime, mais le fait que tout fonctionne de concert, c'est ça qui donne vraiment l'identité au jeu. Et Journey étant minimaliste, il se concentre sur des choses qui sont infimes, qui sont du détail, et c'est ça qui donne en fait vraiment toute la qualité au jeu.
On avait l'occasion de parler un petit peu de ça deux fois. La première fois c'était avec Firewatch, où en fait ils avaient commencé à bosser beaucoup sur level design, sur un petit peu les dialogues d'une partie, mais c'était, il n'y avait rien de concret en fait vraiment, et ils ont dû, et c'était pas longtemps avant la sortie, ils ont vraiment dû faire ce qu'on appelle une vertical slice, donc c'est une un moment représentatif du jeu où vraiment pendant je sais pas une ou deux minutes du début à la fin ça va être un bout du jeu, tu vois, où il y a tout.
Ça y est, tout est polished, il y a tous les éléments pour vraiment te rendre compte de un échantillon de l'expérience finale.
Ouais, d'ailleurs, c'est 5-10 minutes
c'est
en général.
C'est ce qu'on montre à l'E3, hein, quand vous voyez, je sais pas, le Cyberpunk 2077, clairement ce qu'on voit à l'E3, c'est une vertical slice, c'est pour vous montrer c'est quoi en résumé votre expérience du jeu avec tout ce qui est au max.
Et on avait pu en parler aussi un peu avec Prey, où c'était genre jusqu'à 6 mois avant la sortie du jeu, ils n'avaient pas de vision globale du jeu, parce qu'ils bossaient sur plein de choses en parallèle, et c'est 6 mois avant la sortie du jeu qu'ils ont commencé à se dire, bon ok, le jeu en fait c'est ça. Ouais. Et Journey c'était un peu pareil, je pense qu'en 1 ou 2 ans, tu vois, ils avaient quand même une bonne idée de tout ce qu'ils voulaient faire, hein, évidemment, mais ça a dû leur prendre vraiment 1 an pour vraiment tout polish, comme disait Hugo, vraiment la dernière scène pour qu'elle ait la bonne durée, ou que la glissade elle ait le bon feeling, tous ces petits détails là, c'est vraiment ce qui peut faire la différence.
Bah d'ailleurs, elle racontait à la fin des playtests, les derniers playtests pour à la fin des 3 ans, et il disait voilà, sur les 22 personnes qui ont testé, il y en a 3 qui ont pleuré, donc ça veut dire qu'on a fait du bon travail. Donc, mais c'est vrai que ouais, il y a eu quand même, il le montrait vraiment le changement, il le montre dans une espèce de graphe en fait, il n'y avait pas assez de ces différentiels d'émotions, c'était pas assez là, et après avec tout ce qu'ils ont accentué, bah, ça permet justement de te mettre dans cette espèce de vraiment passer par le, en fait moi j'ai l'impression qu'ils ont dessiné une espèce de prisme, vous savez, vraiment un truc, ils l'ont façonné pour nous faire passer plusieurs étapes, et quand tu vas rentrer dans ce prisme, peu importe ta personnalité, a priori, tu vas quand même devoir suivre les petits sillons qu'ils ont dessinés pour toi, et tu vas passer par les états émotionnels qu'ils ont voulu te dicter. Quoi. Bah,
comme tu disais, le passage de la glissade, je pense que c'est assez difficile, parce que de toute façon, tu es entraîné, donc tu es obligé de le faire, et comme il n'y a pas de danger, et que tu as assez peu de mouvement, je pense que tu vas rentrer, comme tu le disais, dans cette espèce de zone safe, dans laquelle tu sais que tu es en sécurité. Donc autant s'amuser, tu vois, quand t'es, c'est le principe de l'insouciance, si tu n'as aucun danger autour de toi, bah, tu peux te permettre de faire n'importe quoi, de te balader, de chanter sous la pluie, etc. Et donc, dans Journey, ce que j'avais trouvé vraiment fascinant, c'est cette idée que, bah, effectivement, a priori, si tu le files à n'importe qui, la personne devrait ressentir à peu près la même chose que toi. D'ailleurs, c'était une de leurs intentions. Après, avec le minimalisme, ils voulaient également essayer d'être un petit peu universaliste dans l'idée de dire on va faire des contrôles relativement simples pour que n'importe qui puisse le faire. Alors, on en a discuté entre nous dans la préparation, on n'est pas forcément d'accord avec l'idée que le jeu est si accessible que ça, parce que bah, contrôler une caméra, contrôler un stick pour les déplacements, avoir une bonne représentation de toi par rapport à l'espace en 3D pour savoir où tu vas atterrir, c'est pas à la portée de tout le monde, quelqu'un qui n'a vraiment jamais joué à un jeu vidéo risque d'avoir un petit peu de mal, mais ça reste un jeu qui est quand même accessible à un très grand nombre de gens qui jouent aux jeux vidéo déjà.
Oui, oui, ce qu'on se disait, c'est que finalement, contrairement à beaucoup de jeux, enfin vraiment c'est marrant parce qu'en 2012, l'époque le jeu vidéo, c'était vraiment les HUD qui sont remplis, les marqueurs d'objectifs, les flèches de partout pour t'indiquer, enfin c'est cette époque-là, tu vois, c'est vraiment à ce moment-là que les interfaces et tout, elles sont vraiment explosées, et on n'était pas du tout dans le minimalisme qui revient un petit peu quand même aujourd'hui. Et c'est vrai que Journey était à l'opposé de ça, et moi je me disais, bah, peut-être que si tu mets Journey dans les mains de quelqu'un qui n'a jamais joué, peut-être qu'il va se sentir un peu perdu, tu vois, dès le début, il n'y a pas grand chose, t'as un désert, t'as pas une grosse, enfin, t'as quand même cette lumière, mais disons que c'est beaucoup moins, il n'y a pas tout ce fun qui t'appelle comme dans un jeu vidéo AAA par exemple, je sais pas, Spider-Man, il y a des couleurs, des machins, des bibibes, tu peux faire, enfin, il y a plein de choses qui t'attirent, là dans Journey c'est beaucoup plus minimaliste, quoi. Mais moi, en tant que joueur, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, parce qu'il y a cette espèce de calme, vraiment fluidité, tu sens qu'il se sert vraiment de code sur les perspectives, sur la lumière, sur les différences de couleurs pour t'attirer à certains endroits, et je trouve que ça marche très très bien. Mais bon, je pense que quand même globalement c'est un jeu qui est quand même plutôt accessible, et voilà, globalement je pense que tu peux t'en sortir même si t'as pas trop joué.
Bah, surtout comme on l'a dit, il n'y a pas de dialogue ou de barrière qui pourrait exister entre différentes cultures, et c'est une des intentions aussi où Genova Chen disait bon bah lui il va être chinois et il a aussi une culture américaine, donc il n'y a pas vraiment d'appartenance claire et nette à une, et du coup ils ont fait un truc qui se situe dans le Moyen-Orient, ils voulaient pas faire quelque chose de particulièrement occidental ou particulièrement japonais, ils ont pris un peu entre les deux, hein, littéralement, et ils ont donné ce ton du Moyen-Orient avec l'image un peu du pèlerin et avec le sable et tout, pour faire un peu un entre-deux, tu vois, pour faire quelque chose...
Bon, l'image du pèlerin, c'est quand même quelque chose qui est assez universel, quand même. Dans beaucoup de cultures, il y a des formes de pèlerinage, des trucs comme ça, des voyageurs, tu vois, c'est quand même quelque chose qui est
le
connu,
monomythe, quoi. En soi, est aussi universel.
Non les... Non, mais justement, c'est tout le problème.
Le monomythe, il l'est, mais c'est...
La
vision qu'on a du monomythe... Tu peux critiquer cette vision, dire, non, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec des différences culturelles et tout, mais le monomythe, dans sa vision, il dit, bah, ils se ressemblent tous, c'est universel, tu vois. Tu peux dire
ça, justement. Ben non, justement, c'est ça les critiques. Enfin bon, on va pas relancer.
Mais en fait, tu vas voir.
Vous avez une petite parenthèse sur comment on prépare d'habitude faire du game, parce qu'on a toujours un moment où on se prend la tête. Non, le monomythe, en fait, il est critiqué par les académiciens parce que justement, il est très. Il est très centré sur notre vision du monde à nous, occidentaux, blancs, développés. Et donc, du coup, ben, le monomythe, il marche très bien quand t'es effectivement dans une culture un peu américano, etc., qui fonctionne. Si on devait se rebaser sur des histoires ou des contes africains, des trucs de chamanisme ou des choses comme ça, en fait, ça ne s'applique pas et ça ne fonctionne pas de la même manière parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes valeurs. Mais bon, bref, c'est pas grave. Le fait est que Journey, de toute façon, s'adressait à un public qui a accès à une console. Donc, les gens qui ont accès à une console, ils ont plus d'argent que les autres.
C'est ça, il y a quand même un paradoxe, c'est-à-dire que quand tu veux faire du jeu vidéo et que tu veux toucher énormément de monde, bah, malgré tout, être simplement ta distribution, elle va quand même dicter le public que tu vas pouvoir
toucher. Bien sûr.
Et effectivement, forcément, je sais pas si cette mission-là, cette ambition qu'ils avaient là avec Journey de vraiment toucher énormément de monde, des gens non joueurs, franchement, sur le PSN, avoir une PS3 ou une PlayStation 4, ce serait pas les non joueurs qui ont ça, tu vois.
Non, mais donc, d'ailleurs, on pourra en reparler à la fin, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, leur nouveau jeu, il est sorti sur mobile plutôt que sur console.
On va y revenir, mais de toute façon, après, t'as aussi le côté tout simplement irrationnel, c'est que s'ils étaient pas sur PS3, ils auraient eu zéro budget être ailleurs. C'est des paradoxes parfois qui sont nécessaires, juste, enfin, je sais pas pourquoi c'est l'exemple qui me vient en tête, mais tu prends un groupe comme Rage Against the Machine, tu vois, qui chante beaucoup contre le capitalisme et tout, bah, ils sont chez une major, tu vois, mais
you critique capitalism and yet you are part of it.
Ouais, voilà. mais c'est ça leur message, c'est ouais, mais en même temps on pourrait pas diffuser ce message si on n'était pas financé
oui
derrière,
ça vois. C'est logique, je veux dire, tu peux pas de toute façon tu peux pas critiquer un truc de l'extérieur quand t'es à l'extérieur de la bulle, il faut que tu sois à l'intérieur de quelque chose pour pouvoir justement déterminer les limites et les remettre en question.
Non, mais en tout cas ce qu'ils ont réussi par contre, c'est apporter une nouvelle typologie, enfin je sais pas si c'était vraiment nouveau, mais en tout cas une typologie d'émotions différentes, toucher une palette un petit peu différente que ce que en tout cas un public qui avait une console PlayStation 3 avait l'habitude de voir, parce qu'en 2012 à côté c'était, bon il y avait quand même The Last of Us qui a quand même essayé de faire des choses, mais bon on restait quand même dans Joel qui met des briques dans la tronche des méchants.
Ça reste plutôt convenu quand
ça reste quand même plutôt violent.
Bah, moi pour parler rapidement de mon expérience encore une fois, moi j'étais encore dans mon syndrome post Dark Souls qui fait que tu vois, ça faisait que 2 ou 3 ans que je jouais à ce jeu et j'arrivais pas à jouer à d'autres jeux vidéo, qui est un syndrome je pense que pas mal de gens qui sont tombés sur les Souls ont ressenti pendant une période plus ou moins longue, mais ça m'a duré pas mal de temps, et Journey ça faisait partie de ces rares jeux où vraiment je ne ressentais absolument pas ce que j'avais l'habitude de ressentir dans les Souls, mais ça ne me manquait pas, parce que du coup ils me proposaient un truc de manière vraiment aussi authentique et si sincère que finalement je m'y suis retrouvé, et je pense que c'est peut-être un des jeux, alors ça va être fort de dire comme ça, mais qui m'a permis petit à petit, tu vois, de passer justement ce cap de ah oui, je peux rejouer à autre chose que des jeux où il y a des roulades et des feux de camp et ça va bien se passer quand même, parce qu'il y a ce truc là quand on joue aux Souls, c'est vrai que le reste des jeux d'action te paraissent un peu fade en comparaison, et comme Journey est pas du tout dans cette posture d'action, d'aventure, plutôt de découverte, d'exploration et de voyage, et ben en fait il m'a montré, tu vois, j'ai envie de dire, effectivement, et là pour le coup je trouve qu'ils ont réussi leur pari, c'est-à-dire ils m'ont fait découvrir une palette que j'avais pas l'habitude de ressentir, comme tu disais, dans le jeu vidéo.
Bah surtout qu'en 2012, voilà, encore une fois, on parlait un petit peu, quand on a parlé de Shadow of the Colossus, on parlait un petit peu de son côté pionnier. Je pense que si Journey a la place qu'il a aujourd'hui, c'est aussi pour ça, c'est qu'en 2012, il n'y avait pas tout ce qu'on a joué depuis. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux, je sais pas, mais Journey, c'est une référence dans le monde indépendant. Et pour des jeux, bah, tu vois, tu parlais de Firewatch, je pense que ça fait partie un petit peu du, vous savez, l'inspiration board, vous savez, ils collent des petites étiquettes des jeux desquels ils vont s'inspirer pour faire leur jeu. Je pense que pour celui de Firewatch, il y a Journey carrément dedans.
Il y a tout un tas d'autres jeux, parce que de toute façon, bon, là récemment, il y a eu Gris qui est sorti du studio Nomada espagnol, qui pour le coup, c'est Journey, mais en 2D vu de côté, parce que ça reprend vraiment la même chose. On retrouve le flottement dans les déplacements du personnage, on retrouve l'importance, la glissade, l'importance vraiment capitale de la musique et de l'intégration de la musique en fonction des trucs. Ouais, il y a tout un travail sur l'esthétique. C'est vrai qu'on pourra revenir encore une fois là-dessus sur Journey, mais voilà, ils ont vraiment bossé chaque tonalité avec des couleurs pour chaque niveau. Il y a Rime également qui était sorti il y a quelques temps, ou qui essayait effectivement de proposer ça. En fait, il y a eu tout un tas de jeux qui ont essayé comme ça de proposer des expériences, et tout de suite les gens les ont repérés en disant ah oui, ça c'est Journey. Sachant qu'évidemment le fils spirituel c'est Abzu, puisque du coup il reprenait une partie de l'équipe. Il y avait le directeur artistique de Bad Game Company qui avait quitté pour fonder son propre studio, et il avait embarqué avec lui Austin Wintory, qui est le compositeur de la musique. On n'en a pas encore parlé, mais tiens, je peux faire un petit passage.
On peut parler de toutes les esthétique avec la
on est dans cette partie là du conducteur, donc on est bon.
Ouf. Parce que tous les jeux, tous les jeux là qui viennent d'être cités, c'est surtout c'est beaucoup une inspiration esthétique aussi de Journey. Ça montre à quel point c'est un des piliers en tout cas de Journey.
Bah oui, parce qu'ils ont vraiment réussi à créer une identité, donc tu le disais, ils ont essayé d'avoir une approche peut-être culturel un petit peu différente de ce qu'on voit d'habitude dans les jeux vidéo pour pas que ça soit trop marqué. Et ils ont fait un travail sur ce qu'on appelle vraiment la direction artistique qui est assez phénoménale, parce que tu le disais, on arrive tout le temps à savoir vers où on doit aller, puisqu'il y a cette montagne qu'on voit systématiquement, peu importe où on est, sauf évidemment quand on est au fond du gouffre. Et là, dans ce cas-là, bah, on ne fait que suivre des petites lumières, on est un petit peu. Tu vois, c'est ça en fait, ils te coupent ton repère et donc bah, forcément tu vas te sentir un petit peu perdu. Et puis bah, chaque niveau correspond une couleur, une teinte particulière. Il y a vraiment, moi, un des niveaux qui m'a le plus marqué également, c'est celui où on doit remonter dans toute une tour et à la fin, tu sais, tu fais monter une sorte de niveau d'eau. T'as l'impression d'être sous l'eau et c'est la première fois où tu montes vraiment sur une méduse, une sorte de raimenta d'écharpe. Et c'était vraiment incroyable parce que là, on retrouve encore ces couleurs dorées, chaleureuses, après avoir passé deux ou trois niveaux dans le noir et dans le sombre. Ça faisait un bien fou, en fait, tu vois, de retrouver ce petit moment-là.
Et puis bah du coup la musique, donc c'est Austin Wintory, c'est ça, qui était le on l'a remarqué, qui a été le premier compositeur du coup de musique de jeux vidéo à avoir été sélectionné aux Grammy Awards. Alors il était nominé pour musique de média visuel, un truc comme ça,
voilà, un truc comme ça, en tout cas il joue face média, à des, je crois, à des films,
voilà, face à ouais. des films, effectivement. Alors il n'a pas gagné le Grammy, mais il était dans les nominés, et c'était une première en tout cas pour une musique de jeux vidéo,
une autre forme de consécration pour ouais, le jeu ça. Vidéo du ouais, coup c'est qui qui intègre des circuits traditionnels ouais. de reconnaissance.
Parce que du coup, c'était aussi un des objectifs. Voilà, en faisant ça, Vat Game Company, eux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils travaillent à donner une légitimité aux jeux vidéo en tant qu'art et en tant que médium. Et bah, c'est vrai que c'était en 2012, du coup, que la musique elle a été sélectionnée, et c'était bah, un petit événement, parce que c'était effectivement la première fois qu'une bande originale de jeu se retrouvait non pas dans une catégorie à elle, mais face à des films. Alors, en l'occurrence, c'était le film de David Fincher, The Girl with Dragon Tattoo, qui a gagné, mais voilà, pour une première fois, on avait un compositeur de jeux vidéo qui était considéré au même niveau qu'un compositeur de film, alors que, de tout temps, le jeu vidéo est un média qui a eu une espèce de... qu'on appelle ça, tu sais, de complexe d'infériorité ouais. par rapport au cinéma. Et d'ailleurs, beaucoup de développeurs, quand ils aiment, se plantent en cherchant justement à faire du cinéma. Là. Mais ça va, je suis en forme, je reviens de vacances, là, j'ai le droit de balancer.
Et là où c'est doublement intéressant, c'est que c'est pas juste une musique qu'on peut écouter comme ça, elle a vraiment été pensée avec le développement de journée. C'est une musique
elle
qui est complètement dynamique.
Elle ouais. est arrivée très tôt.
Bah, elle a défini un petit peu certains tons, et en plus de ça, elle est dynamique, donc t'as des musiques ou des instruments plutôt qui sont associés à certaines créatures. Tu parlais, je sais plus, quand tu libères certains trucs des cages, t'as un moment, t'en souviens, bah lui il a un instrument ou deux qui lui sont vraiment associés quand tu le suis, et d'ailleurs si tu le libères pas, tu peux ne pas le libérer et avancer quand t'en as un tout seul, et ces instruments ne se joueront pas. Et pareil, quand t'as un binôme, je crois que t'as une harpe et je sais plus quel autre instrument qui lui sont associés, et le volume dépend de la distance à laquelle il est, et façon un peu Pierre Leloup, t'as, je crois que c'est le violoncelle qui représente le héros, tu vois, avec son petit voyage initiatique, et je crois que c'est le dernier instrument que t'entends quand il meurt, avant d'entendre du coup le maxi-orchestre dans la dernière scène.
Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, à la fois grâce à leur travail visuel et au travail musical, donc toute l'esthétique du jeu, en fait c'est un jeu qui à la fois ne te dit aucun mot, donc il y a zéro mot, et pourtant je le trouve très très explicite finalement dans ce qu'il veut te faire ressentir, tu vois. Ça te saute tout de suite aux yeux et aux mains et aux oreilles, tu sais s'il faut éprouver de la tristesse, s'il faut éprouver de l'euphorie, parce que en fait les couleurs, bah, quand c'est chaud, bah, forcément on a plutôt tendance à être dans la joie. Quand on va s'enfoncer dans la grotte, ça va être du bleu, on va même tomber vers du noir, quelque chose de très sombre, et puis ensuite on repart vraiment sur de la lumière. Et pareil, la musique en fait avec les notes, bah, ils arrivent à utiliser tous ces petits crochets là pour vraiment nous mettre dans ces espèces d'états émotionnels, et c'est pour ça que bah, tout le monde comprend Journey, on comprend tous, il n'y a pas besoin de mots, c'est pas Inside, tu vois, qui est beaucoup plus cryptique et tout, là Journey c'est clair comme de l'eau de roche, et pourtant il n'y a pas un seul mot, mais parce que tout le travail esthétique permet de bien ressentir les choses, quoi.
Et ce qui est fou, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, ça a mis quand même pas mal de temps avant de finalement s'imbriquer, et il aura fallu vraiment attendre les derniers mois avant la sortie du jeu pour que ça fonctionne de cette manière là et moi en fait ça m'amène une petite réflexion sur l'idée de se dire, bah, quand vous vous dites que en 3 ans ils ont réussi à simplement rendre très cool ces 3 heures de jeu, tu te dis, mais la quantité de travail que ça doit être, les gens qui essayent de rendre bien rythmé un open world ou des jeux modernes, tu vois, qui durent des heures et des heures et des heures, mais c'est, ça doit être un casse-tête, parce que quand tu te dis le travail qu'il a fallu pour simplement concentrer tout ce qu'il pouvait dans ces quelques heures de jeu, tu vois, on parlait d'Inside, c'était un peu la même chose, même si, comme tu le dis, c'est un peu plus cryptique. Là, vraiment, tout le boulot qu'ils ont fait en seulement quelques heures de jeu, qui marche tellement bien, mais pour reproduire un truc pareil sur un jeu qui dure 30 ou 40 heures, ça... Moi, je vois ça comme un truc complètement titanesque, quoi.
Mais d'ailleurs, encore une fois, c'est peut-être ce qui faisait qu'il était aussi unique à l'époque. C'est, t'avais cette espèce de... Déjà, c'est un jeu qui durait que 2h30 ou 3h. Alors, j'imagine que ça a dû râler dans les chaumières chez nos chers gamers. Mais c'est vrai que déjà, ça lui permettait de se placer vraiment complètement à l'opposé de ce qu'on pouvait nous proposer dans le jeu vidéo traditionnel, entre guillemets. Déjà, il y avait ce côté un peu unique. Et ouais, comme tu le dis, vraiment, cette maîtrise sur le rythme, ça fait plaisir. Moi, c'est vraiment aujourd'hui, la daronade. la daronite est là, mais c'est vrai que des jeux courts comme ça de 3 heures avec une vraie maîtrise du rythme, une épure, et on n'en dit pas plus que ce qu'on a besoin de dire pour de toute façon te dire ce qu'on a à dire, bah c'est parfait, tu vois. Moi, c'est vraiment c'est quelque chose que j'apprécie énormément, mais voilà, ça a un coût. C'est un coût en temps, en création, en ressources humaines. C'est un an de polish, quoi, sur un petit jeu comme ça. Donc imaginez sur un God of War, imaginez sur un The Last of Us Part 2, quoi.
Et ils ont dû convaincre aussi parfois Sony. Ils disaient, quand ils étaient toujours en train de se questionner un peu sur le multijoueur, ils disaient par exemple, les ID PSN, il faut les cacher, il faut pas forcément qu'on sache qu'on est en multijoueur au début. Au début, Sony leur disait, non, mais c'est ce qui marche en ce moment, il faut pouvoir inviter ses amis, il faut qu'on puisse jouer ensemble.
Ah, ouais.
Et ils disaient, c'est après, ils ont fait essayer le jeu, et puis ils ont fini par comprendre. Donc il y a eu quand même, tu vois, des personnes à convaincre chez les financeurs.
Ouais.
Bah, de toute façon, c'est ça, c'est que ils ont travaillé dans un espace de contraintes. On le disait tout à l'heure, ils peuvent pas être universalistes puisque ils sont limités à la console PlayStation, Sony en démat, etc. Mais forcément, avec leurs intentions, c'est peut-être pour ça aussi que ça marche aussi bien. C'est que d'avoir réussi à convaincre quelqu'un, un partenaire aussi fort, aussi puissant que Sony, ça montre aussi qu'ils avaient quand même vraiment, on va dire, confiance dans leur concept. Tu vois, ils avaient vraiment réussi à bien travailler leur pitch, parce que pour réussir à les convaincre des actionnaires et des financeurs que oui, vous pouvez faire votre jeu, il y aura pas de dialogue, il y aura pas de cinématique, il y aura pas de loot, il y avait pas, c'était pas encore les loot box, c'était quoi, c'était les DLC à l'époque, en 2012, il y avait pas de DLC. C'était quand même, on se rend pas compte, mais c'est quand même une sacrée paire de manches, parce qu'il faut convaincre des gens de leur dire que tout ce que vous voyez autour qui fonctionne et que vous voyez qui génère du blé, on va faire aucun de ces trucs là.
Après bon voilà, je pense que pour Sony c'était vraiment un petit labo aussi, d'expérimentation, parce que quand tu compares, je sais pas, il y a la même année il y avait The Last of Us, que, en termes de budget je pense pas tout à fait comparable. Donc je pense que c'est vrai que, mais comme tu le dis, c'est important de pouvoir arriver à convaincre comme ça des marketeurs, un éditeur. Mais c'est vrai que pour Sony, je pense que c'était aussi une manière, comme on le disait, de travailler leur image et de rajouter ça. Donc je pense que c'était vraiment un bon filon pour eux, et ils ont pu, je pense, avoir la confiance aussi, comme tu le disais en tout début d'émission, le fait qu'ils aient bien vendu leur premier jeu, de toute façon,
ça aide. Oui,
forcément, ça aide.
Le concept, il avait été prouvé avec Flo. Voilà.
Et du coup, alors, dans notre petit prompteur, on a un début de question. Moi, j'ai noté S.
On se fait qu'on n'a pas fini.
Je crois que tu voulais mettre est-ce que c'est de l'art?
On voulait partir en rigolant comme ça sur les espèces de questions. Alors voilà, est-ce qu'il mérite son statut? Est-ce que le jeu vidéo c'est de l'art? Voilà, on peut partir
c'est
très loin.
Pas nous le dire.
Mais voilà, c'est pas forcément à nous de le discuter. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le jeu, clairement, il a encore son statut. Je pense que vraiment son statut de jeu, d'œuvre assez. Universel, qui peut parler à tout le monde, et en plus de jeu qui est réussi quand même malgré tout. Aujourd'hui, moi je vois pas trop de jeux finalement qui ont essayé de lui prolonger son... qui ont essayé de rester dans son sillon, qui arrive vraiment à sa hauteur, tu vois. S'il y a un trône, tu vois, Journée est tout en haut, tu vois. Pour moi, il est toujours dessus, quoi.
Je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que, tu vois, j'ai vraiment bien apprécié Gris, mais comme tu le disais, on en parlait en préparation, parce que c'est un jeu qui vraiment reprend la même chose, c'est une structure très proche, la durée, elle est de 3 heures également. Le propos est probablement beaucoup moins profond, beaucoup moins intéressant. En tout cas, il peut te toucher de manière assez différente.
Il est peut-être plus focus sur une problématique particulière, et du coup peut-être moins large que ce que tout le monde peut projeter dans le journée, je pense.
Ouais, mais par contre, j'avais vraiment bien apprécié, moi, le travail sur la musique, et c'est vrai qu'en fait, je retiens limite plus la musique que l'esthétique, alors pourtant, c'était le visuel qui nous avait beaucoup été montré sur Gris. La musique, elle est vraiment folle. Journey, ça marche tout vraiment, c'est ça qui fonctionne, en fait. C'est ça, moi, que j'aime bien avec le jeu vidéo, c'est cette idée que tous ces éléments, ils sont tous créés chacun de leur côté, et à la fin, hop, tu fais ton puzzle, et le
truc.
Ouais, mais ça, c'est fou.
Ça, c'est la direction artistique, c'est une pointe, en fait, c'est tout converge pour te proposer quelque chose d'assez précis.
Et il faut que le moment où tu sortes le jeu, c'est le moment où la pointe, elle voilà, parce que sinon ça repart en vrille. Et du coup, c'est très difficile d'arriver à diriger un projet comme ça. Et oui, encore aujourd'hui, je pense que Journey, c'est un jeu qui mérite son statut clairement. Et il ne l'a pas volé de toute façon. Même en solo, je trouve que c'est un jeu qui reste intéressant à étudier pour justement, on l'a dit, sa structure, son rythme, son travail sur l'esthétique. Et il y a beaucoup de jeux qui ont essayé en tout cas de lui voler la velette, comme tu disais. Ça finira par arriver forcément. Mais pour l'instant, il a vraiment mis. En tout cas, il a vraiment montré, je pense, de manière. indéniable que oui, bah oui, le jeu vidéo, effectivement, c'est pas que pam pam boum boum.
En tout cas, c'est fort, moi, je trouve, de voir à quel point il a réussi ses ambitions. Où, dès le début, tu voyais, bah, ne serait-ce que dans sa thèse de master, il avait cette volonté, tu vois, de faire du jeu vidéo un média plus mature. Ça, c'est ce qu'il dit. Lui, pour lui, le flow, voilà, c'est une façon de faire jouer beaucoup de gens et du coup, d'en faire un média plus mature. Et donc, toutes ces philosophies aussi de That Game Company, le fait de créer des nouvelles émotions qu'il n'y avait pas dans le jeu vidéo, et ils ont complètement réussi ça avec Journée. Et ils sont toujours sur cette mission. En fait, on les a un peu oubliés, That Game Company, surtout que leur dernier jeu, il est sorti il y a pas longtemps.
Ouais, ouais, là, il y a quelques jours, je crois même que c'est sorti sur iOS. Là,
mais voilà, il est que sur iOS.
C'est Sky Children of the...
Non, je crois que c'est Children of the Sky, justement, ou un truc comme ça.
Mais ouais. voilà, ça démontre à quel point,
on a bien compris cette liste.
Mais il y a Genova Cheng qui s'est exprimé dessus. En fait, eux, c'est bon, tu vois, je pense que pour eux, le jeu vidéo, c'est bon sur console, en tout cas, ou après, peut-être aussi, parce qu'ils ont plus envie d'être des exclus, ils ont trouvé autre chose, mais ils disaient, le constat, c'est vraiment, il y a à peu près 2 milliards de smartphones, et il le dit, alors, qu'on soit d'accord ou pas, il le dit, voilà, on a 2 milliards de gens qui jouent à des jeux pas très complexes, du type Candy Crush ou Angry Birds, et nous, on veut changer les émotions, pareil, chez eux, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait leur jeu sur iOS, ils voulaient vraiment dominer le marché du smartphone. Il y a un peu, après, voilà, il y a un peu ce côté évangélisation qui me plaît pas forcément ce côté,
ça,
surtout que...
Un peu
voilà, chiant, surtout qu'on s'était dit entre nous, parfois, bah, tu peux jouer, quand t'es dans le métro, tu vas pas jouer à Journée, t'as plus tendance à jouer à Candy Crush qu'à Journée.
Même ça, il y a tout un tas d'études en plus qui l'étudient de manière assez claire, c'est-à-dire que le contexte dans lequel tu joues au smartphone te force forcément à des expériences casuales et c'est pour ça que le modèle free-to-play domine et que les petites expériences de quelques minutes fonctionnent parce que c'est quelque chose que tu peux sortir à tout moment parce que t'as quelques minutes à caler donc on l'a longtemps. Moi en fait c'est ça que je trouve bizarre dans leur expérience, donc je suis assez on va dire impressionné par l'idée qu'ils veulent se diriger vers le mobile, mais je veux dire c'est pas les premiers à avoir tenté de faire ça et il y a tout un tas de studios qui ont essayé justement de faire quelque chose et aujourd'hui le mobile c'est quand même un marché qui est tu vois c'est un peu indéboulonnable, je veux dire
c'est difficile,
il y a des milliards de free to play qui sortent chaque seconde avec des modèles financiers qui sont tous désormais ultra calibrés avec des marketeurs et des gens qui font des stats à longueur de journée pour optimiser et maximiser l'engagement des joueurs et de les forcer à sortir la carte bleue. Donc arriver au milieu de tout ça en disant coucou on va faire Journée sur mobile, alors c'est pas le but, tu vois,
parce qu'en plus on sait pas trop, tu vois, mais c'est vrai que quand tu prends Journée c'est quand même une expérience qui est assez qui est émotionnelle ou que t'as envie de t'impliquer dedans. C'est un jeu, je pense, qu'on a tous fait moi je l'ai fait en une soirée, c'est pas un jeu, tu vois, t'as envie de le sortir de métro, alors attends j'en étais où, j'étais dans le petit désert machin, non, parce que c'est un truc où justement encore une fois c'est ce prisme continu qui te permet de vivre ce voyage. Donc je pense pas de toute façon que ça ressemble à Journée, je pense que c'est pas possible sur mobile, mais c'est vrai que c'est pas là où on les attend, je pense.
Mais il y a quand même une certaine constance, tu vois. Nous, on pourrait dire que, tu vois, en 2009, des gens ont pu dire, mais c'est pas ça qui marche, arrêtez avec vos conneries, il faut faire des open world, des micro-transactions, il faut faire ça. Et au final, ils sont arrivés avec leurs propositions, ils ont su convaincre beaucoup de personnes. Peut-être que sur mobile, ils arriveront à faire sortir certaines personnes leur téléphone de leur poche quand ils sont dans leur canapé ou dans leur lit et qu'ils vont vraiment jouer à ce jeu.
Tu vois, il y a un jeu que moi j'aime bien sur mobile qui s'appelle Monument de Valais, qui est un jeu aussi qui est assez
inspiré de Journée.
Et oui, bien sûr. Mais tu vois, c'est un jeu, lui il est pas free to play, tu vois, c'était un jeu qui était payant, il était sur mobile mais il était pas sur free to play, alors que là je crois que
oui c'est un jeu free to play.
Children's Sky c'est un free to play.
Non mais là on en rigole, mais ça veut bien dire en fait un truc, c'est que le jeu en fait on en a pas parlé, c'est à dire que dans les sphères classiques du jeu vidéo dans lesquelles nous on est a priori bercé, alors ok on revient un peu de vacances, on est un peu déconnecté mais pas trop non plus, on sait quand même à peu près ce qui se passe.
Je crois que ça a pas été testé, hein.
Ouais, personne le teste parce que déjà de base la presse classique ne teste pas les jeux mobiles, ça c'est la règle de manière
en plus
générale.
C'est une exclu iOS, donc déjà
en plus ça limite beaucoup.
Nous on peut pas y jouer,
voilà c'est ça,
voilà,
tous
c'est
les trois on peut pas y jouer,
on va pas
on peut le dire.
Non mais tu vois, ça paraît tout bête, mais acheter une console, bon bah quand c'est 300-400 balles, c'est pas la même chose que d'acheter un iPhone qui coûte 1000 balles. Donc c'est assez rigolo, tout ça pour jouer un jeu free to play. Donc c'est vrai que c'est quand même assez violent de
se
dire.
On le fait pour Zelda et la Switch, mais peut-être pas pour.
Ouais, mais voilà, c'est quand il sortira sur Android, bah moi je serais ravi de l'essayer pour voir à quoi ça ressemble et de peut-être essayer de le capturer. Mais un truc sur ce que je me disais, c'est que si je sors mon téléphone pour jouer un jeu comme Journée dans mon canap, pourquoi je le fais pas sur ma grosse télé? Pourquoi je le fais pas sur ma Switch? Pour moi vraiment, l'usage en fait du smartphone, je vois le jeu vidéo sur mobile comme étant quelque chose qui est lié justement au fait d'être mobile, d'être tout le temps dans le déplacement. Je peux sortir, je peux juste regarder un truc à un coin de rue, faire pause et revenir plus tard. Alors que si je dois commencer à me poser dans un canapé, bah, je m'en fous de mon petit écran de 5 pouces, tu vois, j'en ai des mieux à la télé, quoi, à la maison.
Ouais, mais parce que toi, t'as une console et toi, t'as une télé, oui. Peut-être qu'il s'adresse aussi à toute une partie qui va avoir un smartphone, mais qui n'a pas des
exactement.
Consoles.
Et je voulais continuer là-dessus. C'est par contre là où ils sont peut-être malins et que nous, on comprend pas encore, c'est que justement, dès qu'on sort de notre milieu de pays développés, comme on dit, donc c'est-à-dire tout ce qui est Occident et Asie, le reste du monde, eux, n'ont pas encore accès aux consoles, que ça soit l'Amérique du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient, ils ont assez peu accès aux consoles qui sont encore beaucoup trop chères, et surtout, les constructeurs n'y sont pas encore implantés et n'ont pas de point de vente sur place. Donc, par contre, ils ont tous un smartphone. On le sait, on l'a vu quand Snapchat ou quand s'appelle ce truc-là, tout le monde utilise, c'est WhatsApp. WhatsApp est arrivé, c'est arrivé au départ par l'Asie, et on se rend pas compte, mais aujourd'hui, en fait, l'usage du mobile et l'usage des applications et des jeux sur mobile est bien plus déterminé, non pas par les marchés historiques qui sont l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord et le Japon, mais l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et donc, en fait, comme c'est des nouveaux marchés, c'est de nouvelles cultures, c'est aussi des usages qui sont complètement différents, et je pense que nous, on peut pas encore complètement les comprendre. Et donc, c'est pour ça que je me dis, bah, moi, ça me donne pas envie d'y jouer à leur jeu, mais par contre, je me dis, bah, peut-être qu'ils ont quand même eu le nez creux en se disant, bah, des gens qui n'ont pas effectivement, comme tu disais, accès à des consoles, peut-être que ça va leur parler.
Et surtout que Genova Chen est chinois à l'origine, donc peut-être qu'il connaît aussi mieux ce marché-là. C'est peut-être possible aussi qu'il ait une autre vision du jeu mobile que nous, occidentaux, de la vieille Europe, hein, n'est-ce pas, la France, monsieur.
Oui, non, mais ça, tu vois, c'est un truc sur lequel je trouve que le jeu vidéo, il est assez intéressant à voir dans son évolution. C'est qu'on assiste quand même à une espèce, alors je vais pas utiliser le mot fracture parce que c'est toujours bizarre, mais il y a quand même une petite séparation entre vraiment deux approches qui sont très différentes en fonction justement bah, du niveau de développement de l'endroit où tu vis. Donc moi je vais quand même me dire bah on verra peut-être d'ici quelques temps. C'est vrai que ça serait cool quand même que la presse prenne le temps de le tester parce que bah ils l'ont déjà fait, je veux dire ils ont déjà quand même quand c'est Mario qui sort sur quand c'est Fire Emblem ou Pokémon Go qui sort, forcément là ils font des tests parce que c'est porteur. Mais c'est vrai que Vadgame Company, bon bah au niveau de l'algorithme et du SEO de Google, c'est pas aussi efficace.
Même, ça, c'est quoi leur dernier gros jeu du coup, c'est Journey, ça a 7 ans. Ouais. Bon mine de rien, on est plus 7 ans en temps jeu vidéo, c'est quand même beaucoup hein.
Ah donc, oui, bah, c'est plusieurs fois l'éternité. Hein,
donc, c'est plusieurs fois l'éternité.
Donc bref, moi j'ai hâte quand même qu'ils sortent sur Android parce que je suis assez curieux de voir à quoi ça pourrait ressembler. Si jamais bah, vous l'avez essayé et que vous êtes déjà sur notre Discord ou vous ne l'êtes pas encore, bah, rejoignez-nous, comme ça vous pourrez nous faire part un peu de vos expériences.
Quelqu'un en avait parlé, justement regrettait un peu le côté microtransaction qui apparemment s'applique sur certaines relations sociales que tu peux avoir, tu peux peut-être acheter, alors je ne sais plus en détail, mais peut-être des emotes ou des mouvements, apparemment c'est un peu confus.
D'accord, bon de toute façon on les serra un jour ou l'autre, hein. Voilà, oui, c'est ça qu'on voulait dire, on ne sait toujours pas comment ils s'appellent. Personne, vous avez même pas regardé votre téléphone pour essayer de faire ça.
Non,
on est vraiment sérieux, on a le téléphone en mode avion.
On s'écoute.
On est vraiment trop sérieux, bravo.
Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, Journey, encore aujourd'hui, c'est quand même un jeu qui est important, qui pèse dans le game, voilà, littéralement. Et voilà, bah, on était content de pouvoir en parler parce que de toute façon, c'est un jeu qui reviendra souvent, je pense, dans fin du game parce que encore une fois, il a une place particulière et on en avait parlé quand on avait parlé d'Inside, on en a parlé quand on a parlé de Firewatch. Donc voilà, c'est un jeu qui revient quand même et qui cristallise pas mal de choses finalement de ce qu'a pu faire le jeu vidéo indépendant. Et qui continue de faire en essayant de nous proposer bah, différentes émotions que simplement se taper sur la tronche, même si c'est vachement sympa.
Bah, de temps en temps, c'est cool aussi. Hein.
C'est sympa aussi de taper bien, sur la tronche. D'ailleurs, peut-être que à la rentrée, ce sera surtout des.
On va peut-être faire ça.
Peut-être qu'on va commencer par se taper sur la tranche.
Ah bah, de toute façon, on l'avait dit, à la rentrée, on passe en open world avec des microtransactions et voilà, Battle Royale.
Exactement. Voilà. Vous allez pouvoir acheter des skins d'Exerve. Et ça va être génial. Un Exerve bleu, un Exerve rouge et pour les plus chanceux, violet ou doré, évidemment.
Ah, oui, bah, là, c'est les versions légendaires.
Ah, c'est la légende. Épique Exerve. Bah, très bien, c'est sur ces belles paroles qu'on va vous laisser. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous soutenir sur Patreon si vous le souhaitez pour qu'on puisse vraiment préparer à donf cette rentrée et vraiment reprendre le rythme d'un épisode toutes les deux semaines. On va se faire plaisir, ça va être chouette, moi je suis impatient.
Ça va être, tu vois, moi j'ai hâte en fait, je suis un petit peu anxieux parce que l'année dernière on avait sorti vers Noël à peu près.
Ouais,
là on va quand même se taper toute la période où il y a toutes les grosses sorties de jeux, va être à la fois, on va avoir envie de jouer aux gros jeux mais on va vouloir aussi reparler de jeux qui sont sortis il y a pas mal de temps, donc ça va être assez sportif, je pense qu'on va avoir besoin de votre votre soutien. Donc bah, rejoignez-nous sur le Discord, continuez de nous envoyer des bonnes vibes sur les commentaires iTunes, etc. Et puis bah, ouais, nous, ça nous donnera de l'énergie. Vous voyez, vous tendez les bras vers le ciel, hein, Dragon Ball, tout ça. Et normalement, c'est bon. À la fin, on fait une grosse boule et on tue boule.
Vous cliquez sur le bouton rond et vous faites des petites notes. Et voilà, ça fera plein de petites notes et ce sera beau.
Et on fera des petites notes tous ensemble.
Voilà. Bon, très bien, passez une bonne fin d'été, prenez soin de vous, prenez soin de votre peau aussi, attention, la crème solaire, hydratez-vous, faites attention à la canicule, et puis à bientôt pour un nouvel épisode de Fin du Game.
Salut. Salut.
Ciao.